Écosystème, Florence Farion.
Qu'y a-t-il de pire dans la vie au quotidien pour vous? Enfin pire, je pèse mes mots. Qu'est-ce qui vous pèse le plus? À vous cocher la mention adéquate, remplir sa déclaration d'impôt en général, ça c'est pas terrible. Sortir les poubelles, ça fait jamais tellement plaisir. Faire du tri dans les placards, oh c'est long, c'est pénible. Arrêter de fumer, c'est incroyablement difficile. Rendre visite à un ami malade, ça c'est jamais très drôle. Faire ses courses, j'en passe, préparer un travail de thèse. Sur l'échelle de Richter, on sait pas vraiment, mais en tout cas tout ça c'est pas top et ça nous fait pas forcément sourire. On peut pas dire qu'on ne soit très motivé pour tout ça. En revanche, si je vous dis sieste crapuleuse, un dîner gastro, une heure de massage, vous n'allez pas rechigner de la même manière. Et pourtant, hélas, on doit tout faire. Le plaisir, c'est ça qui nous meut, c'est ça qui nous motive. Alors comment on fait? Il y a quelques pistes pour se donner envie d'avoir envie. Je vais pas vous le chanter, mais c'est... Non, j'en ai pas envie. Décidément, bonjour et soyez les bienvenus dans Écosystème. Nous avons tous une petite liste de choses que l'on ne fait pas et que l'on remet au lendemain, au surlendemain, et on traîne la patte, etc. Yves Alexandre Talman, vous avez aussi votre petite liste de trucs que vous ne rechignez à faire.
Comme tout le monde, bien sûr.
Comme tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Motivation, les leçons de la science pour atteindre les buts qu'on s'est fixés » paru chez Humaine Science. Et c'est un livre qui va aider tous ceux qui traînent la patte pour, je le disais, cocher la mention adéquate, arrêter de fumer, sortir les poubelles, etc. On est sur tous ces registres-là.
On est sur tous ces registres-là. J'aime bien parler d'intelligence motivationnelle. De la même manière qu'on parle d'intelligence émotionnelle, ça veut dire comment on peut utiliser les différents leviers de motivation à notre disposition pour aller dans le sens de nos objectifs, même quand l'envie n'est pas au beau fixe. Vous disiez se donner envie d'avoir envie.
Envie, c'est ça.
Mais non, j'ai pas la recette. Moi, c'est plutôt l'inverse. Comment faire quand on n'a pas envie? Exactement. Les anglo-saxons ont une jolie expression, c'est même le titre d'un article phare dans le domaine, c'est les 3D, doing despite disliking, faire quand on n'a pas envie. Et là, on a les leviers qui viennent quand, on va dire, les shoots de dopamine dans le circuit de la récompense ne sont plus là et ne sont plus suffisamment attracteurs pour nous amener à faire des tâches.
Parce qu'on va y revenir évidemment dans le détail, mais on fonctionne au plaisir. L'envie, c'est le plaisir. On a envie en général des trucs qui nous font plaisir. C'est ce que je disais, voilà, sur la pyramide, faire une sieste crapuleuse, aller au resto. Enfin, on va se plier à l'exercice avec le sourire.
Ça m'étonne pas que vous disiez ça, parce que nous sommes dans une société du plaisir. Si je pense à ma grand-maman qui est décédée maintenant il y a bien longtemps, je l'ai jamais tant entendu parler de plaisir. Je l'ai beaucoup entendu parler de devoir. Elle faisait les choses parce qu'elle devait les faire. Mais maintenant, c'est quasiment indécent d'utiliser le mot devoir. Il faut avoir du plaisir pour tout et n'importe quoi. Et je peux vous assurer que les publicitaires, les spécialistes en marketing, les gens qui nous fourquent ces nouvelles technologies numériques, ils s'y entendent pour aller activer notre circuit de la récompense et le plaisir. Mais pas forcément dans notre intérêt à nous.
Donc on est dans une société où le plaisir a pris toute sa place. Vous travaillez comment, vous, sur ce sujet? C'est-à-dire que vous êtes allé pour votre livre chercher des études. Il y a foule d'études, il y a foule d'observations autour de cette notion justement d'envie, de motivation, de plaisir.
Oui, parce que à l'époque, on a eu une grande théorie, ça a un peu révolutionné le domaine, sur la motivation. Je parle de la théorie de l'autodétermination d'Eshe Ryan, qui distinguait cette motivation intrinsèque de la motivation extrinsèque. Avec une sorte de gradation, si on le lit de façon un tout petit peu superficielle, où l'aboutissement de la motivation serait la motivation intrinsèque, donc celle qui répond au seul plaisir d'accomplir la tâche qu'on va accomplir.
Celle qui vient de moi.
Alors, la motivation extrinsèque peut aussi venir de nous, mais elle vise autre chose que le plaisir de la tâche. Autrement dit, dans la motivation intrinsèque, le but, c'est le plaisir d'effectuer une action, tandis que dans la motivation extrinsèque, le but est différent du plaisir d'effectuer une action. Par exemple, j'étudie pour obtenir un diplôme. et c'est pas déterminé de l'extérieur, personne ne m'y oblige, ça vient de moi, mais on voit qu'il y a une différence, c'est pas pour le plaisir, c'est pour autre chose qui est habituellement un peu différé en termes de satisfaction.
Je ne vous ai pas présenté, on vous a souvent reçu dans Égosystème, vous enseignez la psychologie au collège Saint-Michel de Fribourg, vous avez une fonction de médiateur scolaire, vous intervenez dans un cadre du service du soutien psychologique à l'université de Fribourg, vous faites plein de choses, vous êtes auteur et vous donnez aussi des séminaires, des conférences, enfin vous avez une activité extrêmement multiple. Laquelle vous motive le plus? Boum.
Joker. La clé de toute cette affaire, c'est que je ne me pose pas la question. J'ai remarqué une chose, vous parliez d'activité sportive, mais si avant d'aller faire mon activité qui est programmée dans mon agenda, je me pose la question, je connais la réponse et je ne la fais pas. Quand il s'agit d'aller courir dans la forêt, quand il s'agit d'aller nager dans le bassin, je ne me pose pas la question de savoir si j'ai envie ou pas. Je ne fonctionne pas à l'envie. Parce que l'envie à ce moment-là, vous l'avez bien dit, c'est plutôt m'asseoir à une terrasse, siroter un thé froid, parler avec des amis, regarder une série sur un écran quelconque. Ça, c'est l'envie. Il y a certaines tâches qui, à mon avis, ne répondent pas tellement à cette dimension de l'envie. Et donc, se poser la question, c'est peut-être déjà faire un pas trop vers l'inaction.
D'accord. Parce que vous confiez justement dans votre livre vos exploits sportifs, vous dites que votre ambition, c'est quoi? C'est l'Atlantique, hein, c'est ça? C'est la traversée de l'Atlantique à la nage.
Et...
Oui. Oui, non, mais c'est drôle parce que vous le comptez comme ça. C'est-à-dire, voilà, vous faites des bassins toutes les semaines. Et je m'imagine qu'en hiver, c'est encore moins motivant qu'en été. La piscine en hiver, c'est jamais très rigolo. Mais vous vous êtes fixé ça. Donc, du coup, vous regardez vos cattels parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux finalement que la natation.
Hein, c'est ça. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Donc, si je me pose la question, est-ce que j'ai envie? La réponse, elle est non. Mais par contre, je le fais. Et si vous me demandez pourquoi je le fais, je peux même pas répondre à la question. Si ce n'est que c'est une case horaire fixe dans mon agenda. Et pour des raisons d'équilibre, j'ai remarqué que ça avait du sens de le faire. Et ça m'apportait quelque chose. Mais pas forcément sur le moment. Hein, quand il fait froid dehors et puis qu'il faut effectivement se déshabiller et puis se préparer. Et après rester une heure à voir des cattels défiler. C'est toute une autre question.
On pense, quand on nage comme ça, pardon, je vous pose la question. On pense parce que ça peut aussi être une sorte de bulle dans laquelle justement on refait le monde, sa banlieue, on est de soi, ça c'est presque une méditation.
C'est une méditation, mais pas dans le sens de vouloir contrôler son attention et d'habiter le moment présent, mais c'est plutôt l'exercice où, cérébralement, c'est le réseau par défaut, hein, le mode du réseau par défaut qui s'active, autrement dit c'est la rêverie. Pour le dire d'une autre façon, c'est dans le bassin que j'écris les livres que j'écris.
Ah, tiens.
C'est là que les idées viennent. C'est jamais devant un ordinateur en écrivant des phrases. Autrement dit, de désengager l'attention permet au cerveau d'être dans un mode particulier où les connexions entre les idées, les nouveautés apparaissent, les compréhensions, les fameux eureka. C'était aussi dans un bain, à mon souvenir.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on dégage son cerveau et finalement, ça laisse de la place à des choses qu'on n'attend pas forcément et qu'on va pas forcément chercher, mais qui vous apparaissent. Donc, je note ça, c'est bien, finalement. Donne une bonne motivation pour aller faire de la natation, peut-être, ça. Vous voyez, on y arrive. Hein. Donc, motivation, envie, plaisir, si je vous dis atteindre un but par habitude, par devoir, c'est un peu tous les rouages, toutes les ficelles sur lesquels on peut tirer.
C'est ça. Cette intelligence motivationnelle nous amène à activer différents leviers en fonction justement des tâches et des objectifs qu'on se fixe. Et parfois, le moteur du plaisir, de l'envie, il s'enraye. Il ne nous permet pas d'aller de l'avant. Alors, on pourrait prendre la métaphore. Nous sommes un peu comme un véhicule hybride avec deux types de motorisation. Un moteur qui serait plutôt celui de l'envie, qui fonctionne avec le circuit de la récompense, dans les zones un peu plus limbiques du cerveau. Et puis un deuxième qui répond davantage à la décision volontaire, donc plutôt au niveau cortical, hein, dans le cerveau, et qui nous amène à nous fixer des objectifs et même à consentir à des sacrifices du plaisir immédiat en vue d'une satisfaction plus grande et plus lointaine.
Ça, on est capable, on est câblé pour ça, c'est-à-dire se dire, bon ben voilà, typiquement un régime qui met du temps à obtenir des résultats, parce qu'on va pas fondre du jour au lendemain. Résister à la tablette de chocolat, qui est le plaisir immédiat, alors qu'on sait que la gratification, ben, elle viendra seulement longtemps après. Ça se pèse comment dans nos cerveaux, ça?
Vous voulez la mauvaise nouvelle? C'est pour ça que vous me posez la question.
Ben oui.
Vous savez qu'au niveau maintenant de ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre psychologie aussi, on a quand même pas mal d'indications grâce, bien sûr, aux neurosciences, mais aussi à l'économie comportementale. Et notamment, ce qu'on a remarqué, c'est qu'une récompense perd de la valeur en fonction du temps nécessaire pour l'atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau a tendance à survaloriser les récompenses immédiates. Et ça va plus loin. Il peut nous amener à préférer une petite récompense immédiate à une grande récompense différée. Ça a vraiment été formalisé, on appelle ça le renversement des préférences, et ce que je peux dire, c'est que toutes et tous, à certains moments, dans certaines situations, on va connaître, nous sommes programmés pour ça, un renversement des préférences. C'est ce qui a sauvé nos ancêtres très lointains, vous savez, ceux qui avaient encore les peaux de bête sur leurs épaules. Quand bien même je me dis, mon objectif aujourd'hui c'est de tanner des peaux, si je vois une proie appétissante qui passe, je dois tout lâcher, pour aller la chercher. C'est une question de survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la meilleure volonté du monde ne sera pas suffisante à certains moments. Nous sommes programmés pour ce renversement des préférences. Et je trouve ça extraordinairement déculpabilisant parce que parfois on se dit « Oh, mais j'ai pas de volonté. Pourquoi j'arrive pas à tenir ce régime? Pourquoi j'arrive pas à cesser de fumer ?» Quelque part, il y a quelque chose qui cloche dans mon esprit ou dans mon cerveau. Mais c'est pas qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que la stratégie pour arriver à l'objectif...
Le câblage, il est comme ça.
Le câblage, il est comme ça. Mais ça veut pas dire qu'on est forcément victime. Après, on peut stratégiquement agir par rapport à ça, mais pas éliminer. C'est comme les biais cognitifs, nos erreurs de logique. On peut pas se dire, ah tiens, bah, je vais plus en faire. C'est pas aussi simple que ça.
Ça me ramène au test des chamallows, enfin qui est bien connu. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est ces enfants qu'on met dans une pièce à qui on va dire, bah écoute, voilà, il y a un chamallow devant ton nez. En gros, c'est à peu près ça. Il y a un chamallow devant ton nez. Tu ne le touches pas. Quand je reviens dans 5 minutes, tu auras droit à 2, 3, 4, enfin peu importe. Et c'est incroyable. Les mômes résistent et d'autres ne résistent pas. Et il paraît que c'est pour la vie, en fait, ça.
Oh, alors il y a tout un, on va dire, un nouvel éclairage par rapport à cette étude. Vous savez, dans la psychologie, il y a des éléments qui filtrent dans la, on va dire, dans la pensée populaire. Et puis, il y a ce que les scientifiques ont laissé, ont établi.
Alors, l'étude détaillée, et puis ce qu'on en a retenu, voilà, nous, grand public.
Ouais. Voilà. Alors, si on prend les travaux de Walter Michel, qui est à l'origine de cette étude, pour lui, sa véritable étude, c'était pas de dire que les enfants qui avaient résisté réussiraient mieux dans leur vie plus tard. Ce qu'on a tendance à garder, c'est qu'il a mis en place des stratégies et il apprenait aux enfants à résister. De façon toute simple, on peut apprendre un enfant à multiplier son temps de résistance, simplement en pensant que son bonbon, en fait, c'est du crachat de je sais pas quoi. Autrement dit, c'est ignoble. Juste le fait d'imaginer que c'est pas un bon bonbon, mais un infâme bonbon, permet de mieux résister.
C'était... De temporiser.
Voilà, c'était ça la stratégie. Mais maintenant, on peut prendre exactement le même protocole, on va dire, mais version adulte. Ça marche très très bien. En formation, j'aime bien utiliser cet exemple. Alors, on est en radio, bien sûr, les auditrices et les auditeurs ne voient pas, mais si j'ouvre mon porte-monnaie et que je sors un billet de 100 et que je vous le donne, mais que au moment où vous le prenez, je le ramène chez moi, puis je vous dis, bon, ok, vous avez le choix entre... Vous gardez les 100 francs maintenant, ou on se revoit demain, ici, à la même heure, mais cette fois je vous donne 110. Vous préférez quoi? 100 maintenant tout de suite, ou 110 demain?
Bon, je crois que j'ai ma réponse. Hein.
Mais en tout cas, vous devez réfléchir.
Parce qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
Mais bien sûr.
Bah oui.
Alors, vous avez confiance en moi, vous me dites, ok, si vous me donnez votre parole, vous allez la tenir, mais bon, peut-être que j'aurai un accident sur la route ou que sais-je. Bon, la plupart des gens hésitent et une bonne partie vont dire, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Maintenant, je vous pose la même question, mais dans une année. On se revoit dans une année exactement, 365 jours, 100 francs, ou une année et un jour, 366, 110. Qu'est-ce que vous me dites?
Je vais faire comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais dire un an ou un an et un jour, ça fait aucune différence, donc je vais dire un an et un jour.
D'accord, et là on voit à l'œuvre le biais cognitif. Comment pouvez-vous dire que 10 francs, ça vaut pas la même somme aujourd'hui par rapport à demain et dans 365 par rapport à 366 jours?
Oui, c'est ça, bah oui.
Ça veut dire que ces 10 francs auraient plus de valeur maintenant dans le présent qu'ils n'en auront dans le futur. C'est ça que l'on appelle l'escompte hyperbolique, la dévalorisation des récompenses lointaines ou, si vous préférez, la survalorisation des récompenses immédiates. C'est pour ça qu'on est sujet au renversement des préférences.
Mais il y a plein d'études assez drôles, d'ailleurs. Il y en a une qui me revient en mémoire, c'est celle des commandes en ligne d'épicerie, où effectivement vous avez, pour des produits qui font plaisir, alors je pense au chocolat, aux bonbons, enfin aux douceurs, aux sucreries, aux trucs junk food, là c'est livraison rapide. Il faut les avoir le lendemain. Et alors que des produits beaucoup plus sains, des types de légumes, de graines, enfin que sais-je, là, on est tout à fait capable d'attendre 5 jours. On va pas faire une livraison rapide. Mmh. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça dit ça de nous aussi.
Ça dit ça de nous. Et quelque part, c'est pas une défaillance de notre système. Je crois que c'est comme pour les biais cognitifs. Vous savez, la formule anglaise, c'est « it's not a bug, it's a feature ». C'est pas un défaut, un dysfonctionnement de notre cerveau. C'est une caractéristique. On est programmé comme ça, mais par contre, de le savoir nous permet de développer des stratégies motivationnelles pour quand même atteindre nos objectifs lointains.
Est-ce que le contraire de la motivation, ce serait pas la procrastination, attendre un peu, procrastination, remettre à demain, etc. La semaine prochaine, je vous le dis, vous qui nous écoutez, si ce sujet vous intéresse, nous allons parler justement de procrastination, de retarder les choses, avec Yves-Alexandre Talman encore et Shekina Rocha, qui est une invitée qui a écrit justement sur ce sujet de la procrastination. Et nous parlerons aussi orientation, puisque c'est un moment un peu charnière dans l'année, où on essaye de réfléchir aux transitions, quels choix on va faire, etc. On va en parler. C'est souvent un choix d'ailleurs qu'on procrastine, je crois, qu'on a du mal à faire. On parlera de tout ça donc la semaine prochaine. Mais pour l'heure, nous recevons Yves-Alexandre Talman. Motivation au pluriel, paru aux éditions Humaines Sciences. C'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Comment essayer de biaiser pour retrouver de la motivation? On en parle après The Weeknd sur la première. Et premier choix. Premier choix. Et le titre s'appelle Sacrifice. Allez, à tout de suite. I was born in a city where the winter nights don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. Love. Quelques informations routières avant la suite d'Écosystème.
Infotrafic RTS.
La prudence est recommandée sur l'autoroute Vallorbe-Lausanne. Des objets perturbent le trafic entre les Clés et Orbe en direction de Lausanne.
Deuxième partie de cet écosystème consacré à la motivation avec Yves-Alexandre Talman qui a écrit sur le sujet, psychologue et docteur en sciences naturelles. J'avais oublié ce détail de votre histoire. Et que vous accompagnez beaucoup de personnes en perte de motivation. Tout âge d'ailleurs confondu.
Tout âge.
Tout âge confondu. Oui. On peut perdre la motivation, petit, ne jamais l'avoir peut-être d'ailleurs, petit, de petit à grand.
Alors, je crois que c'est une question de langage. Parce que les personnes qui viennent vers moi en disant « je suis démotivé », en fait, elles sont rarement démotivées. Elles sont démotivées pour une tâche en particulier, ou pour les études. Mais la vraie démotivation ou l'apathie qu'on aurait dans un état de dépression, ça c'est autre chose. Et effectivement, là, ça se traite tout à fait différemment. Mais un étudiant qui vient en me disant « ah, je suis pas motivé à continuer mes études », habituellement, c'est autre chose qui transparaît. Et en réfléchissant avec l'étudiant, on arrive assez vite à l'idée que ce qu'il a perdu, c'est l'envie d'étudier. Et que pour lui, la motivation, c'est un peu comme une émotion, ça devrait se ressentir. Quelque part, c'est comme une sorte d'élan intérieur que j'aurais à travailler. Alors, c'est une idée que j'essaie quand même de relativiser vis-à-vis de ces étudiants. J'imagine la scène, hein, je suis en train de regarder un épisode de ma série favorite sur le smartphone, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de bizarre dans mon cerveau, je suis un peu secoué, il se passe quelque chose, j'ai une folle envie d'ouvrir mon livre de maths pour faire un exercice. Je regarde l'étudiant et je dis, ça n'arrivera pas. La vraie question, c'est comment vous pouvez vous mettre au travail alors même que vous n'avez pas envie, pas vous donner envie de travailler. Vous risquez de vous culpabiliser avec ça. Les profs culpabilisent. Oh, la chance que vous avez d'étudier, vous savez, à l'autre bout du monde, on ferme les écoles. Mais ça culpabilise, ça motive pas, ça. Donc on y va avec d'autres leviers.
Alors, il m'a semblé quand même justement que dans votre livre transpire, et vous l'avez évoqué au tout début, un léger agacement justement par rapport à cette société qui ne nous demande plus, et je le fais très caricatural, mais ne nous demande plus de faire d'efforts, ne nous demande plus de nous accrocher. C'est né comment? C'est arrivé comment ça? Il était où le basculement?
J'aurais bien du mal à répondre à cette question, mais l'approche humaniste qui a été développée en psychologie y a contribué d'une certaine façon. Les théories, théories de l'autodétermination y a contribué d'une certaine façon. La psychologie positive, au début du millénaire, y a contribué. Mais c'était un juste retour des choses, parce que les personnes qui vivaient uniquement dans le devoir, elles s'y perdaient.
C'était bien intriqué tout ça. Ouais.
Mais oui, elles s'y perdaient aussi. Mais si on prend le balancier puis qu'on va totalement de l'autre côté et puis qu'on cherche plus que le plaisir et la satisfaction immédiate, ça ne va pas. Et regardez tous les slogans qu'on a à l'heure actuelle sur vivre l'instant présent. Mais c'est génial vivre l'instant présent. Seulement, quand je vis dans l'instant présent, je fais pas d'études. Je n'économise pas pour mes vieux jours. Je fais pas de régime alimentaire. Je me goinfre, je m'empivre, je me fais plaisir. Et le résultat de tout ça, on le paye super cash maintenant. Le réchauffement climatique, c'est ça? Oh, mais pourquoi s'inquiéter de l'avenir? Vivons le présent. Non, on a un problème avec ça. Et on voit bien que c'est un rééquilibrage qui est nécessaire. Mon propos n'est pas du tout de dire qu'on ne se fait plus plaisir, parce que c'est clair que ça ne va pas marcher.
Non, mais ça ne doit pas être le but absolu de toute chose.
Pas le seul. Il y a d'autres sources de motivation, autres que le plaisir, c'est ça le propos.
Alors justement, on va reprendre le cas de cet étudiant, même si effectivement on parlera plutôt de ce sujet la semaine prochaine, mais parlons de quelqu'un qui vient vous voir et vous dit je rechigne, dans mon travail il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis absolument plus motivé. Comment on décortique tout ça et comment est-ce qu'on arrive à redonner un souffle, si tant est qu'il y a des fois où c'est peut-être même pas possible du tout?
Voilà, première chose, est-ce qu'il y a une question d'orientation derrière? Si le jeune n'est pas à sa place, Ça sert à rien de se faire du mal. Donc, on s'assure que l'objectif pour la personne est bien d'obtenir son diplôme, par exemple. Ça, c'est la condition sine qua non. Puis après, on va voir quels sont les leviers que l'on peut activer. Alors, traditionnellement, on essaie de voir si du côté, non pas du plaisir dans ce qu'il a d'immédiat, mais de façon un tout petit peu plus élaborée, la curiosité, ou la maîtrise. On sait que de maîtriser un sujet nous amène aussi une dose de satisfaction. Alors peut-être que c'est une façon hein, d'amener la personne à se rendre compte qu'en travaillant, elle maîtrise, elle comprend, elle augmente ses performances, ça lui donne une meilleure image d'elle-même, etc.
Et que si, pardon, on l'a déjà éprouvé dans un apprentissage quel qu'il soit, c'est peut-être plus facile de le projeter dans un autre.
Voilà.
C'est-à-dire si effectivement j'en ai bien sué pour apprendre à faire du piano et que je me rends compte du plaisir que j'ai des années plus tard à jouer au piano, je vais peut-être me dire effectivement je me contrains à ça parce que je sais que le plaisir va arriver et que celui-là, il pèse lourd ce plaisir-là.
Voilà. Certains plaisirs, il faut un ticket d'entrée pour y avoir accès. Je prends un instrument de musique, c'est pas aux premières notes que je sors de mon violon, de ma guitare, où je vais avoir du plaisir. Ça en fait des heures de répétition. C'est comme le sport, hein. C'est pas la première fois que je shoote dans un ballon que je vais être au top hein, de ce que je peux obtenir dans ce sport. Par contre, après de nombreuses heures ou années d'entraînement, c'est tout autre chose. Donc ça, c'est le premier niveau. Hein. Si on parle d'une sorte de tour de la motivation, on serait sur le premier niveau. Parfois, ça suffit pas. Certains étudiants vont dire, vous savez, je n'aime pas les maths, j'ai jamais aimé les maths et je vais pas commencer à les aimer maintenant. Pour moi, je prends ça comme acquis. Je vais pas essayer d'aller touiller. Vous savez, c'est comme si vous essayez de me faire aimer les huîtres. Vous avez beau essayer tout ce que vous voulez, je ne vais pas les aimer. C'est comme ça. Ça marche aussi avec les légumes. Hein. Je peux ne pas aimer les brocolis, par contre, je peux décider d'en manger pour ma santé. Et c'est là où on obtient le deuxième, on va dire, étage de la tour de la motivation. Décision volontaire. On ne cherche pas le plaisir immédiat, on ne cherche pas la récompense sous forme de shoot de dopamine dans notre cerveau, mais on vise des objectifs. Ok, alors vous voulez obtenir votre diplôme. Très bien. Là, on va essayer à travers le levier du sens et de l'utilité. Les actions qui font sens, ça, ben on y consent plus volontiers que là où on ne sait pas le pourquoi du comment. Ce qui est utile aussi, ça amène la petite parenthèse sur la procrastination dans les études. Le pire de la procrastination, d'après les études que j'ai pu lire, c'est écrire des mémoires, des thèses et ce genre de choses à l'université.
Oui, champion ça, champion,
oui,
c'est dur de s'y mettre, mon Dieu.
Ben, parce qu'il n'y a pas forcément de délai ou les délais, on peut les décaler. Et puis surtout, on sait que ça ne sert à rien du tout. Autrement dit, ça nous sert...
C'est un passage obligé.
Voilà, alors. À obtenir le grade, mais personne ne va lire ça, ça ne va pas faire avancer la science. Contrairement à un livre qu'on écrit, où on sait qu'un public derrière va y trouver de l'intérêt. Donc on peut essayer sur l'utilité, ne serait-ce que, plus tard tu aimerais faire tel ou tel métier, ça prend un baccalauréat, ça prend un master, etc. L'étude devient un moyen en vue du but qu'on s'est fixé. Là, ça peut aussi permettre un décrochage. Mais ça suffit encore pas forcément. Donc, il faut encore gravir un petit peu l'étage de cette tour. Et puis, on peut y aller avec les leviers contextuels. Autrement dit, en jouant sur l'environnement. C'est la récompense, d'abord. On y va comme ça. Beaucoup d'étudiants le font de cette manière. Ou bien, pour votre déclaration d'impôt que vous citiez en début d'émission, je peux me dire, si je me coltine à cette tâche, et puis que je l'effectue, alors je m'offre un cinéma, ou alors je m'offre avec des amis une soirée au resto. Bien sûr, à part que ça nécessite pas mal de self-control pour faire ça. J'ai souvent des étudiants qui me disent « Ok, si j'étudie ou si je révise pour mon évaluation du lendemain, alors je m'offre deux épisodes de ma série favorite. »
Mais ça, c'est bien, ça.
Ouais, sauf que dans les faits, la personne va plutôt inverser et puis dire « Bon, mais pour m'encourager, je vais regarder un épisode. »
Ouais, d'abord, je m'en fais un.
Ouais, mais comme vous savez, ces épisodes sont faits pour crocher notre circuit de la récompense. Ce qui fait que, et je l'entends souvent...
Je suis resté crochet.
Le jeune qui dit, voilà, c'était mon projet, je regarde un épisode pour me donner du courage. Et 3h30 plus tard, quand j'ai levé la tête et que j'ai vu que c'était très tard, c'était le moment de me coucher. Et donc, j'ai pas travaillé. Bon, donc on peut se récompenser. Et puis après, on peut aller plus loin. On peut faire une autocontrainte. J'aime bien utiliser l'image de l'Antiquité, hein, du mythe d'Ulysse.
Qui s'accroche au mât pour résister.
Oh non, il ne s'accroche pas du tout au mât. Il demande à ses marins de le ligoter au mât.
Oui.
Parce que moi, si je m'accroche au mât ou bien que je fais le nœud, je sais aussi défaire le nœud. Vous savez, si je me dis, ok, je vais résister à l'appel du chocolat ce soir. Alors je me dis, ok, je le mets dans le placard et je ne le touche pas. Ou bien même, je l'enferme à clé. Oui, mais je sais où est la
clé. Vous savez où est la clé, évidemment.
Donc, ça marche pas. Par contre, si c'est mon épouse qui le ferme, parce que je lui ai demandé, pas parce qu'elle m'impose un régime, mais si c'est mon épouse qui ferme et qui...
À votre demande, et qui planque la clé.
Voilà, je suis comme Ulysse, qui a décidé de me ligoter au mât de mon navire pour ne pas céder à mes envies. Quand je dis ça, certaines personnes me regardent avec des grands yeux en disant « Ouais, mais c'est déresponsabilisant votre histoire et la liberté. »
Alors, non, mais vous avez la liberté de demander à votre épouse qu'elle ferme ou pas le placard.
Oui, mais il y a une autre liberté que j'ai un peu moins. C'est de décider quelles seront mes envies. J'aimerais bien décider, par acte de liberté, de ne pas avoir envie de chocolat. Mais ça, ça ne marche pas.
Ça, ouais.
Et comme certaines personnes s'y entendent dans notre société pour venir titiller nos envies à tout bout de champ, ben, je me rends compte que je suis un peu moins libre qu'il n'y paraît. Je vous donne l'analogie suivante. Hein. Je peux décider d'aller passer ma vie dans un monastère où ma vie sera complètement réglée, où de l'extérieur on a l'impression que je n'ai plus aucune liberté, alors que je me libère de mes tentations qui sont, on va dire, superficielles. C'est un choix volontaire. Et vous voyez qu'à ce niveau-là, pour moi, c'est l'exercice suprême de la liberté. Hein. C'est parce qu'il est libre qu'Ulysse se lie. C'est pas du tout parce qu'il se déresponsabilise. C'est parce qu'il est tout à fait conscient que le renversement des préférences va l'affecter quand il entendra ces maudites sirènes. Il le sait. Et plutôt que se dire par excès d'optimisme « Oh, je vais surmonter l'épreuve », il se dit « Je risque de céder ». Comment faire pour ne pas céder ? Je reviens à mon étudiant. Souvent, la démotivation, c'est quoi ? C'est des envies concurrentes qui prennent le dessus par renversement des préférences.
Donc on exclut, on essaye d'écarter, parce que ça c'est aussi ça. Une piste, hein, on essaye c'est d'écarter, ça. C'est-à-dire qu'on voilà, on ferme, on boucle. On
demande à quelqu'un de boucler, c'est mieux.
On demande à quelqu'un de boucler. Et puis il y a aussi, alors moi ce que j'aime bien, c'est le coup de la pénalité, c'est-à-dire que, mais je crois que c'était aussi dans un autre livre que vous avez cité cet exemple de l'arrêt du tabac par exemple. Oui. Si je n'y arrive pas, je te donne 1000 balles.
Oui.
Voilà.
Mais pour certains, ça suffit pas. Il faut ajouter une somme un petit peu plus grande.
Oui, mais oui. C'est nous qui le décidons. Voilà. On se la met.
Elle est autodéterminée. C'est là où on a un aspect essentiel. C'est pas une obligation qui vient de l'extérieur. C'est moi qui choisis le cadre. Et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pas si facile de touiller dans notre affectif, de se donner envie d'avoir envie, hein, pour reprendre la célèbre formule. C'est pas si facile de touiller dans nos croyances, de croire, de nous faire croire qu'une action a du sens alors qu'on n'y voit pas vraiment du sens. Par contre, c'est très aisé d'agir sur le contexte. C'est-à-dire pour l'étudiant, de se rendre à la bibliothèque ou à la salle d'études où il aura beaucoup moins de distractions et où ce sera beaucoup plus facile d'atteindre son objectif de révision.
Oui, parce que ça, et on y reviendra la semaine prochaine quand on parlera de procrastination, c'est vrai qu'on est très doué quand on a, je reprends l'exemple de la déclaration d'impôt à faire, moi je vais faire le ménage dans ma maison de fond en comble. Hein. Alors je ne serai pas inactive parce que j'aurai trop mauvaise conscience à être inactive, mais par contre je vais trouver 12 000 autres trucs à faire avant de faire ça. Ça vous arrive souvent, ça encore? Ou vous arrivez à maîtriser, vous? Vous mettez en place plein de trucs comme ça? Ça devient une gymnastique au bout d'un moment? Parce que vous donnez plein de trucs, mais au bout d'un moment, ça devient une sorte de ça va de soi dans votre pensée, réflexion, organisation, Yves-Alexandre Talman?
Oui, c'est, on va dire, l'étage final, si on veut utiliser cette expression, de la tour de la motivation, c'est l'automatisation, sans plus y penser.
Ouais.
Et au niveau cérébral, c'est encore une autre partie, c'est plutôt les ganglions de la base qui sont actifs quand on a routinisé des séquences d'action. C'est ce que je vous disais avec la natation. À un moment donné, on se pose plus la question. On fait les choses. Et à nouveau, on vit dans une époque où on nous vante la pleine conscience, le mindfulness. Moi, j'aimerais réhabiliter le mindlessness, la basse conscience. C'est extraordinaire d'avoir notre cerveau qui nous amène à faire des tâches pour lesquels on ne trouve ni intérêt, ni plaisir. Mais on les fait quand même.
Pardon, je tente une analogie. C'est un peu comme conduire une voiture. Au début, il y a un côté très laborieux. Et puis, on s'aperçoit très vite qu'après, je sais pas, 10 000 km d'expérience, ben, on peut penser à autre chose, refaire la liste des courses, enfin, réorganiser son appartement. Hein, on arrive à destination. Ah, je suis déjà arrivé, mais la tête a fait plein d'autres choses.
C'est ça. Et voit quand on mesure, entre guillemets mesurer, dans le cerveau des experts, ils activent nettement moins de neurones. En fait, c'est plus économique. Et c'est pour ça que dans un sport, on va s'entraîner des milliers d'heures à répéter le même geste.
Pour que ce soit automatique.
Pour qu'on n'ait plus besoin d'y penser. Hein, pour que ce soit une autre partie de notre cerveau qui prenne en charge la séquence d'action. Et j'ai même lu une étude qui montrait qu'on peut quasiment prédire qu'un penalty va être raté. On le voit quand le joueur commence à trop réfléchir, alors qu'il ne doit pas réfléchir. Son pied, c'est exactement ce qu'il doit faire. Il a fait ça des milliers de fois. On parle de
professionnel.
De professionnel. Oui. Mais quand on commence à réfléchir, puis au dernier moment, on hésite, c'est là où on se dit « Oh non, ça ne va pas passer !»
Ok. Bon, bah écoutez, on a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Yves Alexandre Talma, une motivation au pluriel, le S à la fin, est important. Humaine science, les leçons de la science pour atteindre les buts qu'on s'est fixés. Et nous allons aussi, nous sommes très motivés aussi à peut-être pas danser, mais écouter de la musique, c'est Milo Jones sur la première. Parfaite, le titre. À tout de suite.
À 100 km de mon nom, c'est plutôt facile de confondre la vie en vrai et celle qu'on montre. Et à 100 km à la ronde, ma vie en filtre se raconte. Sur les écrans, c'est beau, aucune ombre au tableau. Et cache-toi et laisse-moi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade, un lissage, je suis parfaite. Et cache-moi et laisse-toi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade sans visage, je suis parfaite. Sourire et jamais contre. À la surface, je suis profonde. Mais à 10 km, comme une ombre, sans même une gomme, je m'estompe. Je disparais, c'est vrai, au loin, plus rien ne compte. Et cache-toi et laisse-moi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade. Je suis parfaite. Et cache-moi et laisse-toi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade sans visage, je suis parfaite. À 1 km, je te rencontre. Glacer le papier se met à fondre. Et tu me vois sans me confondre. Mais à 1 cm, c'est plus sombre. J'ai peur de perdre à chaque seconde. À découvert, je flanche et s'amorce une bombe. Et cache-toi et laisse-moi paraître. Même si c'est qu'une image, une façade, un lissage, je suis parfaite. Et cache-moi et laisse-toi paraître.
Nous accueillons aujourd'hui Alexandre Talman. Nous parlons de motivation. Aujourd'hui, comment se motiver quand on traîne la patte, quand on rechigne, quand... Allez, on essaye de se motiver. Dans vos consultations, d'ailleurs, Yves Alexandre Talman, c'est quoi le... Alors évidemment, pas de généralité, mais les gens sont quoi? Sont fatigués d'aller bosser? Sont fatigués de quoi? Parce qu'on parle pas évidemment de dépression, hein, vous le disiez, voilà. La démotivation générale, à quoi bon, on n'arrive plus à avancer dans aucun domaine de sa vie, ça, on est dans carrément un tableau dépressif, hein, voilà. Mais quand il y a quelque chose, un caillou dans la chaussure, qui nous empêche d'avancer, pour lequel on n'a plus aucun élan, c'est en général le boulot dont on vient se plaindre auprès de vous, ou pas forcément?
Pas forcément. En fait, c'est toutes les actions que l'on fait parce qu'on sait que ça nous apporte un bénéfice à moyen et à long terme. Mmh. Alors, principalement, se remettre à l'activité sportive, ou tenir l'activité sportive. Un régime alimentaire.
Classique.
formation, je veux reprendre une formation, je fais de la formation continue, je veux atteindre un diplôme. C'est plutôt ce genre-là d'objectif avec gratification différée qui vient en ligne.
C'est toujours la même chose, voilà, on a du mal à se projeter, à projeter le plaisir qui va venir plus tard. Je pense à l'argent, puisqu'on parlait de travail, l'argent. Il y a des études extrêmement intéressantes par rapport à la motivation et l'argent. C'est pas le graal absolu de la motivation, l'argent.
Non, c'est pas le graal absolu, c'est pas l'antigraal non plus. Il y a quand même
un juste milieu.
Un juste milieu. Par contre, il faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on essaye de motiver avec de l'argent, on permet par la même façon de quantifier l'effort. On a toute une série d'études qui, à l'époque, disaient, mais ça a été nuancé depuis, qu'on pouvait vivre un phénomène qui s'appelle l'éviction de la motivation intrinsèque. En gros, si je récompense par exemple un enfant pour ses bonnes notes à l'école, il va avoir moins envie d'étudier pour connaître les choses et pour les maîtriser. Et donc on ne devrait pas le faire. Alors évidemment, ça paraît un petit peu étrange cette affaire-là. Si effectivement ce phénomène d'éviction de la motivation intrinsèque existait, alors je vais donner un conseil à tous les parents qui nous écoutent. Si votre jeune perd son temps sur des jeux vidéo, récompensez-le avec de l'argent. À chaque partie, 10 francs. Puis après, vous enlevez la récompense. Et ça devrait tuer sa motivation intrinsèque. Et tout d'un coup, le jeune va dire « Ah, on me donne plus d'argent, j'aime plus jouer. »
Je joue plus. Ah, oh, ça serait génial.
Ouais, mais ça, c'est le monde des bisounours, c'est pas le monde réel. Donc, ce phénomène n'existe pas au sens où on pourrait le dire de façon simplifiée. Par contre, il est vrai que si je donne de l'argent pour une action, ça permet de quantifier l'action. Et donc, peut-être que la personne va me dire « Ouais, mais mon effort vaut plus que ça. » Je prends un petit exemple. Si je vais aider un ami à déménager, puis qu'à la fin, au lieu de me récompenser par des remerciements ou simplement « Ah tiens, je t'invite, on va prendre une pizza au resto du coin », il me dit « Tiens, je te donne 150 francs ». Là, tout de suite, dans ma tête, je vais me dire « Oh, mais ça vaut plus que ça, j'y ai passé la journée, c'est pas 150 francs ». Et donc, je vais quantifier mon effort et ça va me démotiver. « Oh, la prochaine fois, je vais pas l'aider, alors celui-ci ». Par contre, une félicitation, c'est une récompense aussi, mais qui n'est pas quantifiable.
Quantifiable et mesurable.
Donc attention avec la façon de motiver par l'argent, l'incitation par l'argent doit quand même bien être réfléchie avant d'être utilisée.
Est-ce qu'on ne fait rien gratuitement finalement, Yves-Alexandre Tellman?
C'est une question drôlement intéressante et la façon d'y répondre doit être nuancée de nouveau.
Ouais, parce que j'ai l'impression que derrière chaque chose finalement, il y a un petit bénéfice.
La manière dont la motivation maintenant est analysée, étudiée, renvoie plutôt à son aspect quantitatif. Est-ce que je suis beaucoup motivé ou peu motivé? Et cette motivation résulte d'un calcul. Notamment un calcul qui se fait dans la partie préfrontale de notre cortex. On peut même anticiper la valeur qu'on va donner à une action en fonction de l'activation qu'on mesure dans cette partie
donc
du cerveau.
Donc ça se voit, visible.
Oui, alors...
Neurosciences.
Attention à ne pas trop simplifier, mais oui, on a une façon d'appréhender le phénomène. Ce qu'on peut dire, c'est que notre cerveau va toujours chercher un bénéfice à un effort pour lequel il va consentir. Donc il y a une sorte de calcul coût-bénéfice qui arrive toujours. Je peux aller jusqu'au sacrifice parce que ça a beaucoup de sens pour la cause que je défends. Et le sacrifice vaut la peine. J'aime beaucoup cette expression, c'est un peu comme ça que je travaille avec les étudiants qui viennent en prétendant être démotivés, alors que souvent c'est le manque de plaisir et de gratification immédiate qui est à la base.
Au jeu, oui.
C'est de dire, maintenant, il ne s'agit pas de chercher à se faire plaisir. Les études, ce n'est pas une question de plaisir. Peut-être vous aurez du plaisir dans telle ou telle branche, tant mieux pour vous, oui, ça arrive. Mais ce n'est pas ça, c'est un effort. Autrement dit, il s'agit de se donner de la peine. Et je souligne trois fois le mot peine, se donner de la peine. Pas se faire plaisir, mais se donner de la peine. Encore faut-il que ça en vaille la peine, justement. Et pour ça, mon objectif doit être valorisé. Donc notre cerveau fait ce calcul. Et effectivement, on a tendance à considérer maintenant que derrière la motivation, il y a ce calcul cérébral qui fonctionne, même si ce n'est pas un calcul au sens utilitariste, pour moi et uniquement pour moi. Ça va chercher beaucoup plus loin par rapport à notre ensemble de valeurs, bien sûr.
Fragmenter les petits plaisirs et les récompenses. c'est quelque chose de totalement louable, Yves-Alexandre Talman, de se donner des petits bouts de pause. Allez, je bosse une heure, puis je m'offre un quart d'heure de... C'est un moyen de prendre ce chemin de la motivation. Je vois votre regard, je me dis que vous n'êtes pas forcément convaincu. C'est une piste, mais c'est pas...
C'est très louable. Et la formule que maintenant j'aime utiliser est la suivante. Et dans le service universitaire où je travaille, je prends les cas où les efforts louables n'ont pas fonctionné. Maintenant, je suis connu pour ça. J'aime dire que j'interviens sur les ruines fumantes des bonnes résolutions des gens. Quand on a essayé de se faire plaisir, quand on a essayé de se donner du sens, quand on a essayé de se récompenser, et que ça ne marche quand même pas. Moi, j'interviens à ce moment-là.
Et alors ?
Et alors, on y va avec... maintenant, on va se donner de la peine.
Ok. Ouais, c'est ça.
Je vous donne un exemple qui est en cours, mais ça va être assez étonnant cet exemple. J'ai une étudiante qui a bientôt ses examens universitaires, qui procrastine tel qu'on peut l'imaginer, qui se dit maintenant je suis en bout de course. Je sais qu'il me reste, c'était 6 semaines à l'époque, et si je m'y mets pas maintenant,
c'est
je sais que mes examens c'est fini.
Ouais.
Et donc, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites ? Elle me dit elle fait plein de choses dans la vie, elle essaie les récompenses, tout ça. Ok. Donc, on est passé sur autre chose, on a fixé un petit contrat. Comme on sait que le cerveau calcule les coûts et les bénéfices, et que les bénéfices, on n'a pas réussi à les augmenter, on a travaillé sur les coûts. Il fallait faire en sorte que le fait de ne pas tenir son programme de révision lui coûte tellement que c'est inenvisageable. De même que le fumeur qui devrait donner 10 000 francs à une personne s'il allume sa clope, ce serait inacceptable, coût prohibitif. Alors on est arrivé au contrat suivant, l'étudiante m'a donné un planning, moi je suis le marin, hein. Elle c'est Ulysse, moi je suis le marin. Bon, elle m'a donné son planning, et par exemple, un jour elle doit aller 3 heures en salle d'études pour étudier. Vous me direz comment je le vérifie, la technologie c'est fantastique, parce que maintenant on allume des logiciels de télé...
Non, vous allez jusque là ?
Mais bien sûr.
Carrément. Mais donc vous la surveillez pour voir si elle fait bien ses 3 heures ?
Non. J'accepte de jouer le rôle de marin sur le bateau d'Ulysse. Parce que s'il n'y a pas de surveillance, mais pourquoi je le ferais ? Vous imaginez bien que c'est une personne qui a procrastiné non seulement à l'université, mais durant tout son gymnase et durant toute sa vie.
Okay.
Donc, les petites entourloupettes, je peux vous assurer, quand on fait ça, la personne, on l'entend même imaginer les portes de sortie pour s'en tirer de son contrat. Bon, alors elle allume le logiciel de visioconférence et puis elle enregistre. Donc on voit pendant 3 heures ce que si elle fait. Encore qu'elle pourrait aller sur Zalando plutôt que d'étudier. Mais bon.
Ouais.
Et maintenant, l'histoire, c'est la mise.
Si elle fait pas, c'est quoi le risque ?
L'échec immédiat de ses examens. Le contrat qu'on a, c'est que si à un moment donné, elle ne fait pas sa tâche quotidienne, alors elle doit m'amener l'ordinateur et il est confisqué pendant 1 semaine. Ce qui fait qu'elle n'arrive plus. Elle sait qu'elle est finie. Elle mise la réussite de son examen. Et vous voyez que là, le coût est tellement prohibitif qu'au moment où elle se dit « Ouais, mais je n'ai pas envie d'étudier, je préférerais... » Elle se dit « Ouais, mais alors ça veut dire que je n'ai même pas besoin de me préparer pour l'examen, ben c'est fini, tout ça ne sert à plus rien du tout, j'y arriverai pas. »
Ah, c'est assez fou ça. Mais on peut pas le faire en tant que parent, parce que en tant que parent, est-ce que c'est admissible ? Ça se négocie en famille, mais ça va être dur. Hein.
Tout est admissible. Certaines personnes me disent des fois, mais c'est pas tellement éthique votre affaire, parce que des fois on mise financièrement.
C'est éthique, non, c'est très éthique. Moi, je trouve que j'ai pas de jugement. Non, à partir du moment où la personne est consentante, évidemment.
Mais c'est ça.
C'est totalement éthique.
Ben, moi, je ne fais que serrer le nœud, mais je m'y entends bien pour serrer les nœuds sur le bateau d'Ulysse. Parce que l'argent ne marchait pas avec cette personne. Bon, il fallait autre chose. Et c'était l'enjeu de l'examen. Je l'ai aussi fait au gymnase avec un autre étudiant. Ce qui est impressionnant, c'est quand on a placé le contrat, cette personne est venue quelques jours après me dire, vous savez, j'ai jamais autant étudié ce week-end de toute ma vie. Déjà, alors c'était surprenant. Puis après, et c'est là où il y a quelque chose d'extraordinaire, d'avoir un jeune qui vous dit, vous savez... grâce à votre affaire, là, de stratégie, je me suis rendu compte d'une chose. Avant, je me prenais pour un minable sans volonté. Pas j'avais raté une année scolaire, pas je procrastinais, pas j'arrivais pas à me mettre au travail. Et donc, pour l'image de moi-même, c'est pas top, hein. Et maintenant, je me suis rendu compte d'une chose. C'est en fait pas de la volonté. Non, c'est de la stratégie. Je me rends compte que j'avais pas la bonne stratégie pour arriver à. Alors effectivement, hein, le renversement des préférences, du moment où on en est conscient, on se dit, c'est pas une question de volonté. Et de fait, hein, les études qui ont été faites sur la volonté nous montrent que c'est de loin pas cette force willpower, hein, cette force d'inhibition où une main agripperait l'autre pour qu'elle résiste à la tentation. C'est pas ça du tout. C'est de forger un univers où on va expurger les tentations qui sont trop fortes pour nous. Exactement comme Ulysse sur son bateau.
Alors, est-ce qu'il y a aussi un piège, parce que je pense à démotivation, est-ce qu'il n'y a pas un piège à un moment du foutu pour foutu? Ça, c'est aussi un piège. Comment on fait pour le contourner, Yves-Alexandre Talman?
On fixe une autocontrainte, non pas sur le fait de craquer et puis de manger un carré de chocolat, mais chaque carré de chocolat vous coûte un prix.
Alors, je vous pose la question, même si je crois connaître la réponse, mais est-ce qu'on peut motiver quelqu'un, Yves-Alexandre Talman? C'est-à-dire qu'on est de soi à soi, on essaie de grenouiller, de mettre nos petites solutions, nos machins, nos trucs, mais motiver quelqu'un, si je vous ai bien entendu depuis le début de cette émission, c'est quasi mission impossible.
Bon, on peut essayer de le manipuler, mais ouais. Je ne crois pas que vous aimeriez cette réponse-là. Alors, disons-le comme ça, plutôt que motiver quelqu'un, je préfère penser qu'on peut l'aider à se motiver.
Ouais.
Mais si la personne...
En étant son garde-fou, en étant voilà tout ce que vous nous avez expliqué, en l'aidant à mettre en place des stratégies, en étant en tenant la clé, en tout ça.
Vous aimeriez, vraiment, est-ce que vous aimeriez que j'aie des techniques de motivation qui permettraient, par exemple, de donner envie à n'importe quelle femme que je croiserais d'avoir envie de coucher avec moi? Ou n'importe quel homme d'aller servir dans la guerre de Poutine? Non. Quelque part, on a toujours cette autodétermination. Et plutôt que d'essayer de contrer ça ou de manipuler, on va plutôt amener la personne à se permettre, se donner les moyens d'aller dans le sens des objectifs qu'elle s'est fixés. Mais pour ça, faut-il encore qu'elle se fixe des objectifs?
J'ai essayé de retrouver, parce que j'ai pas noté la page, j'ai essayé de retrouver dans votre livre, je faisais allusion à la sieste crapuleuse, parce qu'il y a un moment où, effectivement, vous faites une sorte de petite pyramide, les trucs les plus motivants et les trucs les plus démotivants qui soient. J'arrive plus à la retrouver,
C'est l'étude de Daniel Kahneman sur le plaisir éprouvé dans les différentes activités.
Ouais.
C'est 900 femmes du Texas qui ont été interviewés. Effectivement, l'activité qui, d'après cette étude, donne le plus de plaisir quand on le fait, c'est de faire l'amour.
Ouais.
Mais cette étude est très, évidemment, dérangeante, puisqu'elle nous dit que s'occuper des enfants,
oui,
c'est à la même hauteur que les corvées ménagères.
J'allais vous le dire. Ouais, j'allais vous le dire. Il y a des trucs qui sont très surprenants, mais ça donne un peu, je me suis dit, oula, l'humain est... Mais elle est une étude sur 900 personnes, on n'est pas obligé de la croire.
Non, mais par contre, ce qu'elle nous dit est très intéressant. Vous savez, quand je me lève le matin, ou à 2h du matin, parce que mon bébé hurle. J'ai pas envie, ça me fait pas plaisir, les émotions sont désagréables, je suis stressé, mais je le fais. Mmh. Et pourquoi je le fais? Pour éviter une conséquence dramatique. Le coup, il est incorporé dans l'action. Quand je dis « je dois », en fait, je dois rien, je peux très bien rester au lit et mettre des boules cuillesses puis le laisser hurler, je peux, j'ai le choix. Mais je veux pas aller dans cette direction parce que la conséquence sera terrible. C'est comme pour la déclaration d'impôt. Je peux la déchirer et puis dire tant pis. Mais la conséquence, c'est que je serai taxé d'office, ça me coûtera beaucoup plus cher.
Ouais,
c'est donc pour éviter une conséquence avec un prix que je ne peux pas consentir à payer que je fais la tâche. Et on revient avec nos leviers de motivation, on peut très bien soi-même fixer le prix pour arriver au même résultat.
Merci Yves-Alexandre Talman. On a chauffé un peu la machine, parce que je le disais, la semaine prochaine, on va rester encore un peu dans le même sujet, puisque après avoir parlé de motivation avec Yves-Alexandre Talman, le livre est paru aux éditions Humaine Science, nous allons parler de la procrastination. Comment on fait pour pas retarder, ça revient un petit peu, et puis nous allons parler effectivement de l'orientation qui est un vrai sujet, orientation de nos jeunes, mais aussi potentiellement orientation en milieu de vie, de carrière, de tout ça. On en parle la semaine prochaine. Vous êtes d'accord de revenir la semaine prochaine? D'ailleurs, Yves-Alexandre Talman.
Avec grand plaisir.
Le rendez-vous est pris. Et on va se quitter en musique, comme toujours.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Sympathique, c'était Pink Martini sur la première. Voilà, j'espère que ça vous a motivé à, je sais pas quoi d'ailleurs, à peut-être lire le livre d'Alexandre Talman et nous écouter la semaine prochaine. RTS.ch, c'est le site. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver en ligne. Merci pour votre fidélité. Merci à Bastien Arnold qui a réalisé la programmation musicale et Thierry Châtel qui était en régie. Prenez soin de vous et très doux week-end sur la première. Il est déjà 14h. Bye bye.